Annie, deuxième partie, chapitre 10. Détruit, il n'eût voulu rien de plus. Mais précisément, il ne l'était pas, et cet entretien ne le rendait que plus solide, puisqu'au lieu d'éclaircir les difficultés, il les obscurcissait encore en les compliquant. Il avait fallu un aveuglement vraiment incroyable, que seul l'intérêt personnel expliquait, pour s'imaginer que Gaston ne pouvait penser qu'à son fils en modifiant ses dispositions, alors que la raison disait qu'il pouvait tout aussi bien penser à d'autres, celui-ci ou celui-là. Si, au lieu de vouloir déshériter son fils, il avait voulu déshériter son frère, quelle valeur pouvait-on attribuer à toutes les suppositions qui reposaient sur la première hypothèse? Une seule chose l'appuierait d'une façon sérieuse. Ce serait de découvrir une preuve, ou simplement un indice, que Gaston avait eu des motifs pour changer ses sentiments à l'égard du capitaine, et, par suite, sa disposition testamentaire envers lui. Les seuls témoignages qu'il put consulter étaient les lettres de Léontine Dufourcq à Gaston, et aussi celles du capitaine trouvées à l'inventaire. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas ouvert ses liasses, retenues par un sentiment de délicatesse envers la mémoire de son frère. Mais, à cette heure, ses scrupules devaient céder devant la nécessité. Après le déjeuner, il mit les lettres dans ses poches et, pour être certain de ne pas se laisser surprendre par sa femme ou sa fille, il alla s'asseoir dans un bois où il serait en sûreté. La première liasse qu'il ouvrit fut celle de Léontine. Elle se composait d'une quarantaine de lettres, toutes numérotées de la main de Gaston par ordre de date. Les plis, fortement marqués, montraient qu'elles avaient été souvent lues. Et cependant, il ne lui fallut pas longtemps pour constater qu'elles étaient, pour la plupart, d'une banalité et d'une incohérence telles que Gaston, assurément, n'avait pas pu les lire et les relire pour leur agrément. S'il les avait si souvent feuilletées, au point d'en user le papier, il fallait donc qu'il leur demandât autre chose que ce qu'elles donnaient réellement. Quelle chose ? Le parfum d'un amour qui lui était resté cher ? Ou l'éclaircissement d'un mystère qui n'avait cessé de le tourmenter ? C'était ce qu'il fallait trouver, ou tout moins chercher sans idée préconçue, avec un esprit libre, résolu à ne se laisser diriger que par la vérité. La première lettre commençait à l'installation de Léontine à Bordeaux, dans une maisonnette du quai de la Souisse, c'est-à-dire à une courte distance de la gare du Midi, par où Gaston arrivait et repartait. Elle se rapportait presque exclusivement à cette installation, sur laquelle elle insistait avec assez de détails pour qu'on pût retrouver cette maisonnette si elle était encore debout. En quelques mots seulement, elle se plaignait de la tristesse que lui promettait cette nouvelle existence, loin de sa sœur, loin de son pays, enfermée dans cette maison isolée, où elle n'aurait pour toute distraction que le passage des trains sur le pont et la vue des bateaux de rivière qui montaient et descendaient avec le mouvement de la marée. Mais c'était un sacrifice qu'elle faisait à son amour, sans se plaindre. Dans la suivante, la plainte se précisait. Qui lui eût dit qu'elle serait obligée de se cacher dans le faubourg d'une grande ville, sous un nom faux, et que la récompense de sa tendresse et de sa confiance serait cette vie misérable de fille déshonorée? Quelle plus grande preuve d'amour pouvait-elle donner que de l'accepter? En serait-elle récompensée un jour? Tout ce qu'elle demandait dans le présent, c'était que ce sacrifice servît au moins à calmer une jalousie qui la désespérait. Les suivantes roulaient sur cette jalousie, mais dans une forme vague qui ne réveillait rien de nouveau. Gaston était jaloux du jeune Anglais Arthur Byrne, qui avait habité chez les sœurs Dufourcq. Léontine s'appliquait à détruire cette jalousie. elle n'avait jamais vu dans Arthur Byrne qu'un pensionnaire comme les autres, et le seul sentiment qu'il lui eût inspiré, c'était la pitié. Comment n'eût-elle pas eu de compassion pour un pauvre garçon condamné à mort qui passait ses journées dans la souffrance? Mais d'autre part, comment eût-elle éprouvé de l'amour pour un infirme qui faisait de son corps une boîte à pharmacie? Pouvait-on admettre raisonnablement qu'elle était assez aveugle ou assez folle pour préférer à un jeune homme sain, vigoureux, doué de toutes les qualités qui rendaient Gaston irrésistible, un invalide chagrin, couvert d'emplâtre, qui puait la maladie, et que les servantes, même les moins difficiles, refusaient de soigner? Il avait quitté Peyrorade en même temps qu'elle s'installait à Bordeaux. Cela était vrai. Mais qu'importait? Est-ce que, s'il y avait eu complicité entre eux, elle n'aurait pas su obtenir de lui qu'il se conduisît de manière à éviter les soupçons? Était-ce, quand il y avait le plus grand intérêt dans le présent comme dans l'avenir, pour elle et plus encore pour son enfant, à ne pas les provoquer, qu'elle allait commettre une imprudence, aussi bête que maladroite? 12 lettres se succédaient dans ce ton, montrant ainsi que, pendant plusieurs semaines, Léontine n'avait écrit à Gaston que pour se défendre, et que, malgré tout, les griefs de celui-ci ne cédaient point à ses argumentations. Quand elle ne plaidait point pour sa fidélité, elle se répandait en protestations de tendresse qui semblaient indiquer qu'elle avait trouvé dans Manon Lescaut un modèle, qu'en fille illettrée qu'elle était, elle imitait servilement. « Je te jure, mon cher Gaston, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Je t'adore. Compte là-dessus, mon chéri, et ne t'inquiète pas du reste. » Gaston, grand chasseur, bien plus que grand lecteur, et surtout lecteur de romans, avait pu prendre cela pour de l'inédit et s'en contenter. Tel qu'il était, il n'y avait rien d'invraisemblable à admettre que Léontine l'adorait et faisait de lui l'idole de son cœur. Mais ce dont il ne pouvait certainement pas se contenter, c'était des explications relatives à Arthur Byrne. La lettre qui suivait celle-là le prouvait par son papier si usé aux plis qu'il avait été raccommodé avec des bandes de timbre-poste. Combien fallait-il qu'il eût été lu de fois, relu, tourné et retourné, étudié pour en arriver à cet état de vétusté? Est-ce que si j'avais eu des reproches à m'adresser, idole de mon cœur, j'aurais jamais avoué m'être rencontré avec M. Byrne? Est-ce que, si j'avais voulu nier cette rencontre, je n'aurais pas pu le faire de façon à te convaincre qu'elle n'avait jamais eu lieu? Ce n'était pas bien difficile, cela. Qui m'avait vu? Un homme en qui tu pouvais n'avoir qu'une confiance douteuse. J'aurais contesté son témoignage. Je t'aurais affirmé n'être pas sorti ce jour-là. Et, entre lui et moi, j'ai la fierté de croire que tu n'aurais pas hésité. Mais c'eût été un mensonge, une bassesse, une chose indigne de moi, indigne de mon amour, un soupçon contre toi, ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne ferai jamais, car je ne veux pas plus m'abaisser moi-même devant toi que je ne peux t'abaisser dans mon cœur. C'est pourquoi, quand tu m'as dit le visage bouleversé, les yeux sombres et la voix tremblante d'angoisse et de colère, je crois bien des deux, « Tu as vu M. Byrne ?» Je t'ai répondu « C'est vrai ?» Et je t'ai expliqué comment cette rencontre, due seulement au hasard, avait eu lieu. Pourtant, malgré mes explications aussi franches que claires, je sens bien que tu es parti fâché contre moi et, ce qui est plus triste encore, inquiet et malheureux. Je ne veux pas que cela soit, mon chéri. Je ne veux pas que tu doutes de moi qui t'adore. Je ne veux pas que tu te tourmentes. C'est bien assez que tu aies à souffrir de notre séparation. Aussi, après l'affreuse nuit que je viens de passer à me désespérer de t'avoir fait de la peine, je veux que ma première pensée, ce matin en me levant, soit pour te rassurer en te répétant ce que je t'ai dit. Il me semble que quand tu le verras en ordre sur le papier, s'il m'est possible de mettre de l'ordre dans mes idées, tu reconnaîtras que dans cette malheureuse rencontre, il n'y a rien pour te tourmenter. Comme je te l'ai dit, j'étais sorti pour une petite promenade sur le quai. En cela, j'ai eu tort, je le reconnais. J'aurais dû rester à la maison. Mais que veux-tu ? N'avoir pour toute distraction que de regarder passer les trains ou les bateaux, cela devient ennuyeux à la fin. Et n'avoir pour exercice qu'à tourner dans un jardin grand comme une serviette, ça étourdit. J'étais donc sorti, et machinalement, sans savoir ce que je faisais, où j'allais, sans me rendre compte de la distance, j'étais arrivé au bout du pont, où je m'étais arrêté à regarder le mouvement des navires mouillés dans la rivière que la marée montante faisait tourner sur leurs ancres. Quand je sens que quelqu'un s'est arrêté derrière moi, tout contre moi, et me regarde. Tu penses, si je suis ému, alors, sans même me retourner, je veux continuer mon chemin. Mais une main me prend doucement par le bras, et une voix me dit avec l'accent anglais « Je vous fais peur, mademoiselle ?» C'était Monsieur Byrne. « Je te demande si je pouvais l'éviter, malgré l'envie que j'en avais. » Il me dit qu'il vient d'Arcachon, où il est resté depuis son départ de Peyrorade, et qu'il se rend à la gare de la Bastide pour prendre le train de Paris. Moi, je ne lui dis rien, pensant qu'il va m'abandonner. Pas du tout. Comme il est en avance, il trouve que c'est un moyen de tuer le temps que de me faire la conversation. C'est à ce moment, sans doute, qu'est passé celui qui t'a dit m'avoir vu en compagnie de M. Byrne. Ce ne peut être qu'à ce moment, puisque nous ne sommes pas restés ensemble plus de 8 ou 10 minutes. J'avoue que je n'ai pas bien conscience du temps, car j'étais mal à mon aise. Je n'avais su que répondre quand il m'avait montré de la surprise de me rencontrer à Bordeaux, alors qu'il me croyait en Champagne. Et je ne savais aussi que dire pendant qu'il m'examinait. Je sentais que ma grossesse sautait aux yeux, ainsi que ma confusion. Ces quelques instants, dont on me fait un crime, m'ont pourtant été bien cruels. Enfin, il me quitta avec un air de pitié qui n'était pas pour me rendre courage, et je rentrai à la maison, me reprochant cette malheureuse sortie, mais sans prévoir les conséquences qu'elle allait avoir. Voilà la vérité, idole de mon cœur, toute la vérité, telle que je te l'ai dite franchement, telle que je te la répète pour qu'elle te rassure, te calme, pour qu'elle t'empêche de douter de moi. Interroge ta conscience, mon chéri, et je suis sûr que sa voix te répondra que tu ne peux pas me soupçonner. Écoute-la. Écoute aussi la raison qui te dira que je serai la plus bête ou la plus folle des femmes de te tromper. Suis-je cette bête ? Suis-je cette folle ? Folle d'amour, oui, je la suis. Folle d'amour pour toi, je l'ai été du jour où je t'ai vu, et je la serai jusqu'à la mort. Parce que je t'ai écouté, parce que j'ai cédé à ta parole, à tes beaux yeux, à ta passion, à ton élégance, à ta noblesse, à tout ce qui fait ton prestige, peux-tu supposer que j'aurais cédé à un autre ? Mais il n'y a qu'un Gaston au monde pour moi, et il ne peut pas me faire un crime de ce qu'il est irrésistible. C'est m'accuser du plus misérable et du plus lâche des crimes, de penser que M. Byrne peut être pour moi autre chose qu'un indifférent. Est-ce que j'aurais eu des yeux pour toi ? Est-ce que je t'aurais écouté ? Est-ce que je me serais donné si j'avais aimé ce pauvre garçon, ou même si, simplement, j'avais été aimé de lui? Il est orphelin, il est riche, il ne dépend de personne, ni d'une famille, ni de rien. Aimé par lui, je me serais fait épouser, et malade comme il l'est, ayant besoin de soins, j'imagine que cela n'aurait pas été difficile. Au cas où il m'aurait aimé, bien entendu. As-tu un indice, une preuve, n'importe quoi qui laisse supposer que j'ai fait ce calcul? Je te le demande et m'en rapporte à tes souvenirs pour la réponse. Quand nous nous sommes vus, avais-je l'air d'une fille gardée par un sentiment tendre, un amour, un engagement, des projets quelconques? T'ai-je jamais opposé la moindre résistance dans tout ce que tu as voulu de moi? N'ai-je pas été aussi souple entre tes mains, aussi docile à tes désirs, que peut l'être une fille libre de toute dépendance étrangère? Je ne dis pas cela pour m'être donné à toi, car j'ai cédé autant à mon amour qu'au tien, mais pour le reste, pour tout ce qui s'est passé à partir de ce moment. Quand tu as voulu que je cache ma grossesse, t'ai-je opposé de la résistance? Et cependant, j'avais bien le droit d'élever la voix et de te dire que, puisque j'étais une honnête fille, tu avais des devoirs d'honnête homme envers moi. L'ai-je fait? Non. Tu m'as représenté que tu devais ménager ton père et les lois du monde auxquelles tu appartiens, qu'il fallait t'attendre, ne rien brusquer, et sans résistance, mais non sans souffrance, sans honte, sans chagrin, j'ai accepté ce que tu voulais. Tu as trouvé que je devais quitter ma sœur et notre maison pour venir me cacher ici. Je t'ai obéi sans t'opposer d'objection, bien que je ne fusse pas assez aveugle pour ne pas voir ce que serait la vie que tu m'imposais, loin de toi, dont je serais séparé, loin des miens, prisonnière, abandonnée, seule avec mes pensées qui ne seraient pas gaies. Je l'imaginais bien. Est-ce qu'à ce moment, j'aurais accepté si M. Byrne ne m'avait pas été étranger? Je n'ai vu que toi. Je n'ai pensé qu'à la plus grande marque d'amour qu'il me fût possible de te donner. Pour tout dire, pour être franche jusqu'au bout, j'ajoute que j'ai pensé aussi à notre enfant et que ce que je faisais pour toi, tu le lui rendrais. Que tu doutes de moi, que tu m'accuses, rien ne peut m'être plus cruel. Et il faut que je t'aime comme je t'aime, que je sois ton esclave, ta chose, pour le supporter sans révolte. Mais enfin, si douloureux que cela soit, dans le moment où tu me frappes de tes soupçons, je ne perds pas tout courage, parce que je sais que je te ferai revenir à d'autres sentiments, et qu'il n'y a de coupable en toi que ta nature inquiète et jalouse. Tu es ainsi, et ne peux rien contre toi. Ton esprit toujours en éveil t'emporte, et rien ne t'arrête, ni la raison, ni la vraisemblance, ni la justice, jusqu'à ce que la voix de ton cœur parle et te montre ton erreur. Mais si je peux, maintenant que je te connais, accepter ces doutes, je ne veux pas qu'ils effleurent notre enfant. Je ne veux pas que tu le regardes de cet air sombre et anxieux dont tu regardes la mère, en te posant toutes sortes de questions folles ou absurdes. Pour lui, je ferai tous les sacrifices, et par lui, tu auras toujours la femme la plus tendre, la plus soumise, la plus dévouée, la plus fidèle, jusqu'à mon dernier soupir. De toi à lui, il n'y a pas de question à te poser, tu n'as qu'un mot à dire. Je suis son père et lui dois la tendresse, les soins, l'amour d'un père. C'est pour lui que je t'écris cette longue lettre, bien plus que pour moi, car malgré tout, je sens que je n'ai pas à plaider ma cause, qui est si bonne qu'en ce moment même, j'en suis sûr, tu ne penses qu'à me faire oublier le chagrin que tu m'as causé. Sois tranquille, cela ne sera pas difficile, et tu n'auras qu'à paraître pour me trouver telle que j'ai toujours été et serai toujours. Ta bien-aimée, Léontine. Il avait lu les lettres précédentes aussi vivement que le permettait leur écriture peu nette. De celle-là, au contraire, il pesa chaque mot, chaque phrase, et quand il arriva à la fin, il la reprit au commencement. mais si attentif qu'il fût, il n'y trouva rien qu'il ne connût déjà, si ce n'est des indications sur le caractère et la nature de Léontine qui justifiaient tous les soupçons. Malgré ses protestations d'amour et ses serments, il paraissait bien certain que cette coquette de village avait manœuvré entre Arthur Byrne et Gaston de façon à les ménager également, écrivant très probablement à celui-ci les mêmes lettres qu'à celui-là, sans savoir au juste lequel des deux était le plus idole de son cœur, à moins qu'ils ne le fussent ni l'un ni l'autre. S'il en était ainsi, et tout semblait l'indiquer, on comprenait par quelles incertitudes Gaston, passionnément épris de cette femme, avait passé, et quels avaient été ses soupçons. Mais si toute sa vie, il s'était débattu contre l'obsession du doute, lui qui, mieux que tout autre, était en situation de trancher la question de paternité, n'était-ce pas folie de s'imaginer qu'après 30 ans passés, on verrait clair là où il s'était perdu dans l'obscurité, n'ayant pour se guider que ses lettres? Quand on les relirait 100 fois, comme Gaston les avait lues, elles ne livreraient pas plus leurs secrets que 30 ans auparavant. Des inductions, des hypothèses, elles les permettaient toutes. Des certitudes, elles n'en fourniraient aucune, si les dernières n'étaient pas plus précises que celles-là. Elles ne l'étaient point. Partout, Léontine se défendait contre la jalousie de Gaston par de vagues protestations. Nulle part, elle ne prenait corps à corps un des griefs auxquels elle répondait. « Je t'aime, compte là-dessus. » Et c'était toujours le morne refrain. Après la liasse de la mère, il passa à celle du fils, beaucoup plus volumineuse. Parcourant seulement les premières lettres, écrites d'une écriture enfantine, il ne commença une lecture sérieuse qu'avec celle où l'enfant devenait jeune homme, et tout de suite, il put constater que si, au lieu de vouloir éclaircir une question de paternité, c'était une question de maternité, il n'admettrait jamais que ce garçon simple et droit, au cœur tendre, mais discret et réservé dans ses expansions, pouvait être le fils de cette coquette dont chaque mot criait la tromperie. Tel se montrait le collégien, tel était le soldat, avec seulement en plus la fermeté et le sérieux que donne l'âge, mais si franchement que, dans cette confession qui sans interruption se continuait de la 18e à la 30e année, on voyait, comme si on l'avait suivi jour par jour, l'éveil de son esprit et de ses idées, la formation de son caractère et de ses sentiments, l'ouverture de son jeune cœur au rêve d'abord, plus tard à la pensée, plus tard encore à la vie. Alors, il se produisit ce fait que cette lecture, commencée avec la pensée et l'espoir qu'elle tournerait contre le capitaine, concluait au contraire en sa faveur. Puisqu'il était si peu le fils de sa mère, à qui avait-il pris les qualités natives que chaque lettre révélait en lui, si ce n'est à son père? Et pour qui connaissait Gaston, il semblait bien que c'était lui qui fût ce père.